Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre territoire du talent sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli Android. Aujourd'hui, vendredi 3 juillet 2026, nous abordons un sujet essentiel, la prise en charge et l'inclusion des personnes handicapées et plus précisément de personnes souffrant du trouble autistique. Comment mieux comprendre leurs besoins, comment adapter nos services publics, nos lieux culturels, nos pratiques pédagogiques. Pour répondre à ces questions, deux invités ont accepté de témoigner pour nous éclairer grâce à leur expérience concrète et inspirante. J'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Alchamolak, lieutenant du SDIS 95, service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, chef de centre de Persan, et référent du projet Amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le cadre opérationnel, dont des personnes présentant des troubles du spectre autistique. Bonjour, lieutenant.
Bonjour, madame.
Et avec nous, via le téléphone, Françoise Doroc, fondatrice et présidente de l'association APT, créatrice de la méthode Dolce, une approche innovante d'apprentissage et d'accompagnement destinée aux enfants autistes. Bonjour Françoise.
Bonjour à vous.
Merci et bienvenue à vous deux d'être avec nous dans les studios d'IDFM Radio.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Alors, j'ai relevé moi quelques chiffres en préparant cette émission. En France, près de 700 000 personnes sont autistes, dont 60 000 enfants. Chaque année, environ 8 000 enfants naissent avec un trouble du spectre de l'autisme. Et la prévalence a doublé en 10 ans. Face à cette réalité, notre territoire innove, des pompiers se forment, des conservatoires s'adaptent, des partenariats se créent. Lieutenant Benjamin Alchamolak, je vous laisse vous présenter.
Alors bonjour et rebonjour. Donc oui, je me présente, lieutenant Benjamin Alchamolak du SDIS 95, chef de centre des pompiers de Persan, mais également en charge d'animer le groupe de travail sur la prise en charge du handicap en situation opérationnelle. Et effectivement, dans le cadre de nos travaux et des orientations qu'on a définies ensemble, et sous l'impulsion de la direction départementale, nous avons mené des actions pour mettre des actions de formation et de sensibilisation pour les TSA, les oui. troubles du spectre de l'autisme.
Très bien. Alors j'ai pu voir que vous étiez titulaire d'un bac médico-social, c'est-à-dire que vous avez cette fibre pour...
Alors effectivement, ça a fait partie de mes orientations, on va dire, scolaires. Et puis rapidement, moi j'ai été baigné dans le monde des sapeurs-pompiers depuis l'âge de 13 ans. Et donc voilà, le rapport à l'humain est quelque chose pour moi fondamental.
Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Françoise Doroc, donc présidente de l'association APT, méthode de Dolce. Je vous laisse également vous présenter.
Oui, merci, volontiers. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis donc à la tête de l'association APT Autisme que j'ai créée en 2006, qui à l'époque était une association extrêmement innovante puisque nous étions les seuls, encore à peu près aussi maintenant, à proposer l'enseignement de la pratique instrumentale à toutes les personnes porteurs de troubles du TSA. À l'époque, en 2006, ça a été une révolution. On m'a traité de tous les noms, disant que ces gens-là étaient absolument incapables, etc. Mais ça fonctionne très bien.
Vous avez été opiniâtre.
Très opiniâtre. Et puis un peu transgressive aussi.
Oui.
Je crois que dans la vie, quand on veut faire des choses qui sont un peu hors normes, il faut oser être transgressif.
Oui.
Si bien que j'ai réussi donc à imposer, quelque part, cette méthodologie qui s'appelle donc la pédagogie Dolce, qui est basée sur l'accueil de la personne autiste avec ses compétences pour l'amener à apprendre à jouer de la musique.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, votre travail est reconnu pour sa capacité, justement, à révéler les compétences, les émotions, les potentialités des enfants, grâce à une pédagogie douce, progressive et profondément humaine, j'ai pu lire.
Complètement, complètement. Tout part de l'humain. Ça part de l'humain par rapport au professeur qui va enseigner, mais surtout, ça part de l'humain de la personne avec laquelle on travaille, qui, elle, est capable de nous faire comprendre ce qu'elle est son centre d'intérêt, quelles sont ses compétences. Et à partir de là, s'appuyant sur les compétences des enfants, des jeunes adultes avec lesquels on travaille, on avance vers d'autres compétences. C'est assez extraordinaire de voir l'évolution que nous proposent ces personnes, dont on dit partout qu'ils ne sont pas capables de grand-chose, oui. qu'ils ont trop de problèmes, qu'on n'en fera jamais rien. Moi, je peux affirmer, depuis les plus de 20 ans que je travaille avec eux, puisque l'association fête ses 20 ans cette année, que c'est vraiment un public extraordinaire.
Oui. Et alors, comment est née cette aventure et quel était votre objectif initial ?
Bon, cette aventure est née comme toujours, comme souvent, par le hasard de la vie, une rencontre. J'étais professeur de piano, hein, je suis professeur de piano, psychologue, etc. Enfin bon, passons, ça n'a pas d'importance. Tout ça, ce qui compte, c'est le concret maintenant. Donc j'avais une de mes élèves en cours de piano qui a adopté une petite fille qui s'est avérée être très lourdement autiste. On a cheminé ensemble le temps que cette petite soit prise en charge à gauche, à droite. Et un jour, sa maman m'a demandé si je pouvais lui enseigner le piano.
D'accord.
Voilà, j'ai tenté l'aventure parce que c'était une aventure.
Ah, oui.
Et là, j'ai découvert l'autisme dans toute sa splendeur et toute sa difficulté. Mais quand la petite était au piano, on avait une autre enfant. Et il faut savoir, depuis le temps maintenant, je peux l'affirmer, que derrière un instrument de musique, le handicap s'efface.
S'efface complètement, oui.
Ah oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
Mais donc, il a fallu que vous... Comment vous vous êtes formé? Parce que vous avez dû apprendre plein de choses, certainement.
Oui, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord parce que j'ai repris des études. Hein, j'ai fait des études de psycho. Ensuite, je suis allée aux États-Unis me former là-bas à la compréhension de ce que l'autisme, la pathologie, pourquoi c'est si compliqué d'interagir avec eux, uniquement parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Voilà. Et à partir de là, mettre en place une pédagogie adaptée, partant justement des troubles que portent ces enfants, qui ne sont des troubles que par rapport à notre société, à nous.
Hein, oui, c'est la perception qu'on en a. Oui,
voilà,
bien sûr.
À nos codes personnels, mais qui en fait peuvent être très adaptatifs selon les difficultés qui se présentent. Et on obtient des choses absolument fabuleuses. On travaille sur les émotions, sur le lien à l'autre, sur les échanges. On peut même voir apparaître certaines formes de langage, même pour quelqu'un qui est mutique. Enfin,
ah oui.
C'est assez extraordinaire. Oui. Et puis, il y a un schéma de base qui est important. C'est ce sur quoi est basée cette pédagogie également, la réappropriation ou l'appropriation de son schéma corporel. Quand on est autiste, on n'a pas conscience qu'on a un corps. On ne sait pas où se situe ce corps dans l'espace. Et la pratique instrumentale va accompagner cette prise de conscience du schéma corporel.
Et donc, ça permet aux enfants de faire des progrès dans l'ensemble de leur vie, j'imagine.
Tout à fait. Dans l'ensemble, tous les items concernés par la pathologie sont accompagnés par la musique.
Oui. Et... vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Enfin, vous nous avez donné les grandes lignes, mais peut-être nous donner des exemples. Donc, cette petite fille avec laquelle vous avez commencé, les résultats?
Les résultats, bah oui. Alors, tous ces enfants, quel que soit le niveau du trouble, parce que certains enfants sont porteurs d'un trouble extrêmement lourd, hein, tous ces enfants-là, pris en charge grâce à la pédagogie Dolce, et grâce aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, j'ai mis en place des formations, justement pour les professeurs, pour que tout ça puisse être fait dans les conservatoires.
Oui.
Les lieux citoyens doivent être absolument ouverts à tous les citoyens,
oui,
y compris bien évidemment aux enfants en situation de handicap à cause de l'autisme. D'accord. Donc tous ces enfants-là qui sont suivis par nos professeurs dans différents lieux de France, de Navarre, si vous voulez, on va leur faire jouer des petits concerts. On va tous les mettre sur scène. Pour deux raisons.
C'est ça. Ils découvrent aussi la proximité des autres, forcément.
Oui, la reconnaissance d'être ce qu'ils sont. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes applaudi, vous êtes reconnu comme une personne.
Ouais,
et pas rejeté.
Bien sûr.
Voilà. Et ça, c'est très, très important. Donc, ça favorise quelque chose qui est très inexistant chez ces personnes, c'est l'estime de soi.
Oui, c'est sûr. Et alors, je donnerai peut-être la parole au lieutenant Alchamolak. Je crois qu'il a peut-être des questions à vous poser. Je vous laisse intervenir, oui. Lieutenant.
Alors, on a certainement des questions à vous poser, parce qu'effectivement, on est sur une démarche... qui a un an maintenant, donc c'est le mois des anniversaires. Effectivement, notre action, on va dire majeure sur 2026, a été la sensibilisation sur les troubles du spectre de l'autisme. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on commence à rencontrer effectivement des professionnels, des établissements, des responsables d'établissements médico-sociaux, notamment des IME. Et nous, moi, la question que je pourrais savoir, enfin, peut-être vous poser dans un premier temps, c'est peut-être des conseils finalement pour accueillir également dans nos établissements, dans nos structures centres de secours, d'accueillir au mieux les jeunes en situation de handicap, notamment liés aux troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que vous avez, vous, des conseils d'approche ou peut-être des ateliers à proposer qui pourraient faciliter l'intégration et l'accueil leur accueil dans nos centres de secours?
Là, vous posez une question extrêmement importante, qui est l'avenir de ces jeunes. Voilà. Donc, beaucoup ont des compétences qui se dévoilent, qui se révèlent avec la pratique que l'on peut avoir avec eux, mais tous sont capables de faire des choses. Donc, si vous arrivez à leur expliquer, à leur faire s'approprier des démarches pour être avec vous dans votre travail de sauvetage que vous faites au quotidien, votre investissement auprès de la société, bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Moi, je fais des formations qui, bien sûr, au départ, ont été créées, mises en place pour les enseignants dans les conservatoires, les écoles de musique, etc. Mais ça s'est ouvert depuis à beaucoup de choses, parce que dans notre société, on est en très grande difficulté pour faire ce que vous dites là, justement, accueillir tous les jeunes. Vous savez, on parle d'inclusion, d'intégration, moi je parle d'accueil. Et on se devrait, dans notre société, être accueillant pour tous. Donc, il y a des codes, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec eux, et des choses qu'il est conseillé de faire. Toutes les formations que je propose, et j'en ai qui pourraient vous intéresser, justement, consistent justement à éviter de faire des erreurs, pour ne pas aller dans le mur, comme on dit sincèrement, en les accueillant. Donc ça, bien sûr, non. Moi, je suis à votre disposition pour qu'on essaye de mettre en place ne serait-ce qu'une demi-journée d'information pour que votre équipe, votre équipage puisse comprendre certaines choses.
Très bien. Bah écoutez, je relève la proposition. Je ne manquerai pas de vous contacter.
Je vous mettrai en relation l'un et l'autre, bien sûr.
Ça vraiment avec plaisir. Je vais vous dire pourquoi je le ferai avec beaucoup de plaisir. Parce que dans le travail que je fais, donc je côtoie toute la journée des jeunes comme ça porteurs de TSA, et quelquefois certains font des crises, ce qu'on appelle la crise autistique, assez difficile à comprendre. En fait, bien évidemment, tous les voisins sont là et quelquefois appellent vous. Les pompiers,
oui.
Pour venir. Et là, on assiste à des choses qui sont difficiles. Je trouve qu'il y a, bien sûr, c'est très compliqué de gérer les jeunes en pleine crise de violence. Mais cette violence n'est jamais dirigée contre l'autre. C'est une véritable violence qu'ils ne peuvent pas contenir. Donc, ça sert à rien de les prendre et de les emmener à l'hôpital psychiatrique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a autre chose à faire de beaucoup plus simple. Bref, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui pourraient vous être utiles pour éviter des souffrances aussi.
Oui, effectivement. Après, c'est vrai que si je peux faire une petite approche sur notre programme mis en place avec en lien avec la Fondation John Bost, hein, qui est très implantée sur le territoire valdoisien. Hein, c'est-à-dire qu'on a co-construit un programme avec la Fondation, justement pour sensibiliser davantage nos personnels dans le but d'améliorer notre prise en charge, avec notamment une approche sur les gestes à réaliser, en tout cas l'approche, la plus pragmatique possible et efficace dans ce type d'opération, et surtout d'aller à l'essentiel et d'éviter les mauvais comportements, en tout cas les comportements qui seraient pas adaptés. Je pense que le pompier veut bien faire, malgré tout. Évidemment. Il y avait peut-être un manque de connaissances, et c'est pour ça qu'on a mis cette formation en place et cette sensibilisation, qui est aussi disponible pour l'ensemble des services départementaux et différents utilisateurs, parce qu'on on a mis notre programme en ligne, en fait, sur une plateforme de formation à distance. Et je sais que par rapport à ça, voilà, certains services départementaux nous ont déjà contactés pour que voilà la démarche soit peut-être intégrée dans d'autres services départementaux. Et ce programme finalement co-construit nous a permis vraiment d'aller et de comprendre davantage et d'aller un peu plus loin sur la compréhension de la prise en charge de l'autisme en général.
Je comprends très bien que dans votre travail, lorsque vous êtes appelé sur une situation épineuse, je dirais, hein, c'est quelquefois très très délicat de gérer des situations apparemment de grande violence. Comment faire? C'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Hein. Oui, tout à fait.
En tout cas, moi, je constate que vos deux univers semblent éloignés, l'urgence d'un côté, la pédagogie douce de l'autre, et pourtant, on comprend que vous partagez un même objectif, hein, mieux comprendre, mieux accompagner, mieux respecter, et que là, vous êtes peut-être même en train de créer une passerelle entre les sapeurs-pompiers et l'association APT. Donc, oui. Ça serait formidable.
Grâce à vous.
Ah, ben, je vous en prie.
Et grâce aussi à tous les professeurs avec lesquels je travaille. Bon, j'ai formé depuis des années pratiquement 250 professeurs un peu partout. Et il y en a beaucoup dans notre région. Il y a l'école de musique d'Angers, hein, qui accueille de nombreux élèves.
Oui.
Et puis il y a aussi le conservatoire d'Aubervilliers, le
CRA,
où il y a une de nos professeurs, Virginie, qui est là-bas.
Donc voilà. Virginie qui est ma fille, ma plus jeune fille, et qui est professeure de piano, et c'est grâce à elle que j'ai pris connaissance de cette méthode Dolce, et puis de vous, j'ai pu vous contacter, Françoise.
Voilà, et sans formation, sans connaissance particulière sur ces pathologies, quelle que soit la bonne volonté, quelle que soit l'ouverture du cœur que l'on peut avoir pour le faire, c'est très difficile si on n'a pas les compétences nécessaires. Ouais. On fait des choses, hein, bien évidemment, parce que c'est le point de départ, mais ça suffit pas pour aller plus loin. Ouais. Et vraiment, je suis admirative aussi du travail que font nos sapeurs-pompiers, pas seulement dans le 95, un peu partout.
Oui, c'est vrai que on en dit pas assez de bien tout le temps.
Mais non,
c'est vrai.
Ils font partie du paysage, c'est normal.
Complètement, complètement.
Il y a des tas de choses comme ça qui sont dites normales, qui en fait ne le sont pas tant que ça. Voilà. Et associer, unir ses forces dans un même objectif, c'est pas tant.
C'est formidable, oui.
Tout à fait.
Lorsque vous avez mis au point votre méthode Dolce, vous avez réussi à convaincre facilement l'entourage des personnes qui souffraient du trouble autistique.
Alors, le vrai travail, il est sur le plan politique.
Ah oui, bien sûr, comme D'accord. toujours. Comme
voilà. toujours. Ouais. Les familles, voyant les résultats obtenus avec les enfants, qui évoluent, qui changent de comportement aussi, qui sont sociabilisés beaucoup plus souplement, etc. Ça, c'est pas très compliqué. Après, c'est le bouche à oreille. Où c'est très difficile, c'est de rendre ça à l'étape nationale. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut que les directions conservatoires, les municipalités, les communautés de communes se rendent compte de l'intérêt de cette démarche-là pour que ça s'installe de façon durable. Et pas clairsemer deux, trois élèves par-ci, par-là. Donc, que ça devienne une vraie politique d'intégration.
Oui, oui, ça devienne...
Non, alors, une politique d'accueil.
Voilà, d'accueil, oui, on a compris que votre mot, c'était l'accueil.
Voilà.
Très bien. Merci infiniment. Françoise, est-ce que vous avez peut-être une autre question à poser au lieutenant Alchamolac?
Je vais juste lui dire que je suis à sa disposition pour mettre en place une demi-journée, par exemple, d'initiation, quand il le souhaitera, qu'il prenne contact avec moi, et ce sera avec grand plaisir que nous partagerons, parce que je pense qu'eux aussi ont beaucoup d'expériences à partager, que nous partagerons ces expériences très enrichissantes.
Alors, il m'a soufflé dans le creux de l'oreille avant l'émission qu'il y avait un très beau conservatoire à Persan qui n'avait pas la méthode Dolce, donc voilà, je vous...
Il faut faire du travail de conviction là. Ouais.
Absolument, voilà. Absolument.
Peut-être au niveau local. Bon, j'en parlerai, mais c'est vrai que je ne sais pas si à vrai dire il y a cette méthode, mais en tout cas ça peut faire partie des échanges qu'on peut avoir au niveau territorial.
J'ai fait l'année dernière une grosse formation d'une vingtaine de personnes sur le 95. Il me semble qu'il y avait quelques enseignants de Persan dedans. Mais bon, tout ça, vous voyez,
mais il faut
intéressant, c'est que on sent qu'il y a des choses qui se passent. Mm-hmm. Il manque une certaine forme de fédération autour de tout ça.
Hein. Oui. Oui, on comprend.
Beaucoup d'individus qui font des actions individuelles, mais voilà, il faut que ce soit beaucoup plus important. On ne peut pas laisser ces jeunes, ces gens comme ça, en déshérence dans notre société. C'est pas possible.
On va mettre IDFM Radio à votre service pour parler de cette méthode. Comptez sur moi.
Je prends.
En tout cas, un immense merci à Françoise Doroc, donc fondatrice de la méthode Dolce et de la présidente de l'association APT. Merci parce que vous êtes en ce moment en formation précisément en province.
Tout à fait.
Et merci d'avoir accepté cet échange via le téléphone. J'espère une prochaine fois dans nos studios.
Je voulais juste dire que l'école de musique d'Angers quand même a été l'école pionnière en France.
D'accord.
Et il y a 18 ans, c'est elle qui a ouvert la première classe Dolce en France.
Ah, très bien. Bah, écoutez,
voilà, il y a ce jour, ils ont 49 élèves autistes.
D'accord, d'accord, très bien.
Quatre professeurs.
Bon, donc, mais si j'ai bien compris, il y a encore du travail à faire, donc il ne faut pas baisser les bras.
Absolument, absolument. Ce n'est que le début. Hein.
Merci infiniment, Françoise.
Merci
bonne fin de formation. Merci à vous.
Merci. Bonne journée.
À bientôt.
À vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. On marque une pause et on va écouter Christophe Maé et Belle Demoiselle et on reprend l'émission tout de suite après.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. La silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave. Ça se bouscule dans ma tête, topé à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Le fantasme qui me distraire, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle disparaît dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Belle demoiselle, oh non, qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, c'est l'émission Notre territoire a du talent. Aujourd'hui, une émission consacrée, alors on va pas dire inclusion, on va dire l'accueil, pour reprendre les termes de Françoise de Roc, des personnes handicapées et plus précisément de personnes souffrant du trouble autistique. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir donc Benjamin Alchamolac, lieutenant du SDIS 95, service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise, chef de centre de Persan et référent du projet Amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le cadre opérationnel. Et nous venons d'interviewer, je viens d'interviewer Madame de Roc, Françoise de Roc, fondatrice et présidente de l'association APT, création de la méthode Dolce. Alors, lieutenant, J'ai bien aimé votre approche avec justement Madame de Roque. On l'a dit, c'est alors que vos univers semblent très éloignés, au fond, ils ne le sont pas tant que ça.
Non, ben, c'est vrai qu'on avait on a échangé sur cet échange et enfin cette discussion finalement à distance, mais utile. Et effectivement, voilà, on peut se rendre compte que des univers différents peuvent se rapprocher. Alors peut-être par des points ponctuels, en tout cas voilà, des horizons différents permettent finalement de grandir et de faire naître peut-être des objectifs communs, ou en tout cas voilà des orientations sur lesquelles on peut y réfléchir. Donc c'était très intéressant.
Oui, vous me disiez donc le SDIS a lancé ce projet d'amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap, parce que dans le cadre opérationnel, parce qu'il y a eu le gouvernement a mis aussi l'accent sur certains handicaps.
Alors effectivement, alors sur la partie valdoisienne, hein, du SDIS 95, hein, c'est l'impulsion de la direction, puisque effectivement on est devant une réalité opérationnelle. Nous intervenons, nous pompiers, sur des personnes en situation de handicap, ce qui représentait à peu près 2400 interventions sur 3 ans, les 3 dernières années. Et dans des établissements qui reçoivent des personnes en situation de handicap, qu'on a évalué à 800 interventions. Donc devant cette réalité opérationnelle, il a été décidé de mettre en place un plan d'action qui va se poursuivre. Et dans ce plan d'action, il y a eu cette première action forte sur la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme. Alors c'est une impulsion départementale, mais on n'est pas les seuls, hein, services départementaux, à se pencher sur la question et à vraiment vouloir améliorer nos pratiques. Et au niveau national, effectivement, il y a un programme qui s'appelle MC Assist, qui se développe, la volonté est de développer au niveau national ce programme, qui est destiné à améliorer la prise en charge des personnes sourdes ou malentendantes, ou on a des problématiques de communication, parce qu'on sait que cette communication est essentielle en termes de relations pompier-victime. Et donc, c'est une volonté nationale de développer ce programme.
Et alors, ce programme, que va-t-il changer pour les sapeurs-pompiers et pour les personnes, justement, en situation de handicap ?
Alors, c'est un programme qui est basé sur 2 volets, hein, 2 grandes thématiques. La partie acculturation, donc formation, sensibilisation du personnel, qui sera faite en lien également avec des personnes sourdes et malentendantes et des interprètes. Donc il y a vraiment cette volonté aussi pour nous de s'ouvrir vers un monde qui est différent, enfin en tout cas des sachants, voilà. Et à partir de là, ce volet acculturation, sensibilisation, on aura les 10 intervenants, une application numérique, mais qui est finalement qu'un outil. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel sera basé sur la connaissance, et ensuite aider de l'outil sous forme numérique, hein, version tablette, qui va aider le secouriste, parce que bon, là typiquement je parle plus des pompiers, mais on a aussi les associations de sécurité civile, type Croix-Rouge, hein, mais pas que, qui pourront utiliser cette application et s'intégreront très certainement dans ce programme, parce que c'est un programme global. Et donc effectivement, c'est pour améliorer notre prise en charge, notre communication si importante dans le début de nos interventions.
Oui. Alors vous avez déjà noué, j'imagine, des partenariats avec des établissements du territoire et d'autres SDIS. Vous avez quels ont été les retours ?
Alors on a des retours très positifs, attendus parfois même souvent, à la fois des aidants, des familles. Et de certains établissements, hein, typiquement on a eu déjà des échanges, comme je vous le disais, avec la fondation de Jeune Boss, mais pas que. On a eu plusieurs IME, plusieurs associations du territoire, et des échanges déjà avec des services départementaux franciliens, mais également au niveau du territoire national. Et donc on a bon espoir que, voilà, notamment au travers ce type de rencontres, hein, oui. Les échanges radio, ça permet, voilà, de générer un élan départemental, régional et nationale.
Oui, une meilleure visibilité. Exactement. Parce que c'est vrai que j'ai envie de dire qu'on n'est pas forcément au courant de ce que vous faites. On sait que vous sauvez les gens, mais on ne sait pas forcément dans quelles sont vos spécificités.
Voilà, donc c'est un champ qu'on développe. Et typiquement, on veut également créer des partenariats et des actions au niveau territorial et local. Ce matin, j'étais au centre de secours de Viarmes, qui a accueilli un groupe d'une petite dizaine d'enfants pour voilà les accueillir, des jeunes qui étaient autistes. Et donc l'idée, c'était de pouvoir voilà les accueillir dans un centre de secours, leur montrer le matériel et un peu désacraliser, en tout cas sensibiliser les jeunes à ce que c'est une tenue de feu, un camion, un tuyau, pour aider finalement demain aider à ce que nos interventions se passent mieux. C'est vrai qu'on a eu dans les échanges avec les professionnels cette volonté de créer un premier contact hors situation d'urgence, ce qui permettra demain, quand les résidents voient les pompiers dans les établissements, d'avoir moins peur, d'être moins sujet à crise, etc., etc.
Oui. Voilà. Oui, en vous écoutant, je me disais que peut-être, en vous voyant arriver justement avec votre uniforme, ça peut impressionner.
Ça peut impressionner déjà, je pense, le commun des mortels, mais sur des handicaps, ça peut, et typiquement sur les troubles du spectre de l'autisme, ça peut effrayer. Il peut y avoir vraiment des effets de crise. Générer vraiment des comportements qui sont inappropriés, et le fait de se rencontrer soit dans les structures, soit dans les établissements permet justement à ces personnes d'être un petit peu plus d'avoir un peu moins peur de nous quand on arrive pour les interventions.
Alors on sait tous que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Avez-vous besoin de besoins financiers pour mettre au point les méthodes que vous souhaitez développer?
Alors aujourd'hui, on développe des partenariats, comme je vous l'ai dit, au niveau départemental. Bien entendu, ces partenariats sont, on va dire, cofinancés ou en tout cas intégrés dans les pratiques. Alors c'est pas un appel aux dons, mais effectivement, si
profitez-en.
L'idée étant de peut-être généraliser nos actions, de les développer davantage. Donc, si toutefois, on peut avoir des soutiens, mais c'est pas forcément des soutiens financiers, ça peut être des soutiens, en termes de communication, ce genre de choses. Je pense qu'on pourra étudier les partenariats, plutôt que soutien, je préfère parler de partenariat.
Oui.
Ça s'étudie, on peut en parler, bien entendu. Et c'est, comme vous l'avez dit, le sujet important, c'est de soutenir ces actions par des partenariats engagés au profit des victimes, des Valdoisiens et de la population.
C'est ça. Alors parmi ce que vous souhaitez développer, il y a les modules de formation, les supports pédagogiques, les outils opérationnels. Quels sont les projets prioritaires?
Alors les projets prioritaires, c'est continuer cette année jusqu'à fin 2026 les actions qui sont menées. En 2027, c'est l'axe 2. C'est le déploiement du programme justement MC Assist au sein du SDIS 95. Donc ce qui sera basé sur la formation, comme je vous l'ai dit. Donc on a un gros volet formation à organiser. Et puis on aura le plaisir d'accueillir dans nos rangs un expert sourd et malentendant et deux interprètes. À l'heure où je vous parle, on a certainement deux interprètes qui vont nous rejoindre. Et donc 2027 sera l'année MC Assist pour le SDIS 95, est vraiment un partenariat avec à la fois des experts langue des signes française et des interprètes qui s'engagent avec nous et qu'on aura plaisir d'intégrer au sein du service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise.
Très bien. Donc on lance un appel, que vous recherchez des partenaires engagés, associations, établissements médico-sociaux, experts du handicap, et pour créer les collaborations dont vous venez nous parler.
Alors effectivement, et dans cette recherche de partenariat, là c'est un peu plus spécifique MC Assist, mais la recherche du moment, si je peux appeler ça comme ça, c'est effectivement la recherche d'interprètes. La recherche d'experts LSF pour nous aider dans le déploiement du programme. Donc là, c'est vraiment la plus que à ce jour le besoin financier, c'est la recherche d'interprètes, qui est, je sais, un engagement en plus des engagements professionnels, mais qui serait vraiment très utile pour qu'on puisse déployer le programme le plus sereinement possible.
Est-ce que vous avez, vous-même, vécu des situations marquantes avec des personnes en situation de handicap?
Alors, on intervient, c'est 80% de nos interventions, c'est du secours à victimes.
Oui.
Donc, dans ces 80%, effectivement, on peut intervenir dans les établissements ou pour des personnes en situation de handicap. Dans les différents échanges que j'ai eus ou dans mon expérience professionnelle, le pompier s'adapte tout le temps, toujours. Malgré tout, on avait ce petit delta-là où on s'est dit, effectivement, il faut qu'on renforce cette adaptation qu'on a tous par de la formation, de l'acculturation, des outils, etc. Et donc, à titre personnel, je suis déjà intervenu dans les établissements sans trop savoir quoi faire. Mmh. L'idée, là, dans notre programme sur l'autisme, hein, c'était déjà de pouvoir finalement se reposer aussi sur les soignants, sur les familles, pour nous aider dans nos actions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, et c'est quelque chose qu'on a rappelé dans notre volet sensibilisation. Et donc on s'adapte, mais des fois on n'a pas forcément les bons outils, les bons termes, les bons comportements. Et l'idée de notre programme, hein, c'est vraiment d'appuyer ces connaissances, renforcer ces connaissances, mieux comprendre pour mieux intervenir. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment retenir de nos programmes. Et sur le territoire valdoisien, hein, il y a quelque chose qui a marqué le territoire, c'est le passage de la tornade,
oui,
sur la commune d'Hermont, mais pas, oui, que, mais dans ce secteur, et a été touché l'IME d'Hermont,
ah, oui,
où nous sommes intervenus. Et par rapport à cette intervention vraiment marquante, nous avons pu organiser avec le directeur de l'établissement et l'agence régionale de santé, la délégation valdoisienne, un retour d'expérience qui a montré à la fois les forces, mais peut-être les axes d'amélioration. Et je sais qu'on a vraiment pour objectif de travailler ensemble sur à partir de cet événement pour améliorer nos pratiques. Donc, vous voyez, c'est énormément d'échanges, oui, et sur une intervention qui a été majeure, marquante pour tout le monde, de pouvoir adapter nos pratiques et de mieux se connaître également pour mieux intervenir et mieux intervenir ensemble.
Oui, de faire de cet événement tragique une force pour rebondir et puis pouvoir s'adapter aux situations.
Exactement.
Mm-hmm. Les défis que vous observez le plus souvent en dehors d'un problème qui, heureusement, n'arrive pas tous les jours comme cette tornade.
Alors, c'est de la situation, on va dire, du malaise, comme il y a pu avoir ces derniers temps, hein, une augmentation des malaises. Mais quelqu'un, par exemple, qui est non-verbal, le pompier, voilà, il y a plusieurs situations possibles. Et le pompier, voilà, va poser des questions, va essayer de comprendre la situation, hein, tout ce qui est circonstanciel. L'idée, c'est de savoir, de comprendre ce qui a pu se passer. Et quand on a quelqu'un qui est non-verbal, notamment du fait du handicap, le pompier a des difficultés quand même à comprendre ce qui s'est passé, à orienter finalement son bilan, ses actions, etc. Et donc, dans toutes ces volets acculturation et dans tous les champs de ce qu'on va exploiter, ce qu'on va mettre à disposition, c'est justement aider le pompier à intervenir malgré une situation sur laquelle on a du mal au départ à identifier. Et donc, pour les personnes qui sont voilà, qui ont du mal à communiquer, etc., bah, l'idée, c'est de pouvoir proposer à nos équipages des fiches d'aide à la décision, des planches d'intervention un peu type pour pouvoir l'aider malgré qu'il y ait une communication qui est difficile. Et par rapport au programme MC6 que je vous parlais tout à l'heure, on a toute une application et une sensibilisation qui sera faite pour accompagner le pompier dans ces situations-là qui pourra ne faire qu'améliorer notre prise en charge.
Oui. La difficulté aussi peut-être de dans le fait de mettre au point cette méthode, c'est que vous ne pouvez pas faire de test entre guillemets, puisque vous ne pouvez, enfin j'imagine que vous ne pouvez pas si vous pouvez quand même travailler avec des personnes en situation de handicap.
Alors justement,
pour voir
c'est
des réactions.
Ce travail nous a amené à communiquer, à vraiment échanger avec les professionnels de santé, hein, du monde du handicap. Mmh. Et c'est aussi grâce à eux qu'on va mettre en place l'ensemble des outils que je vous parle sur le territoire. Et puis au niveau du programme MC Assist, hein, qui est vraiment l'enjeu au niveau national aujourd'hui, c'est un programme qui a été réalisé et mis en œuvre par le SDIS du Calvados depuis maintenant 2017, hein, de mémoire, et donc repris par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, et donc dans cette idée de développer au niveau national ce programme. Et tout ça, ça a été co-construit finalement avec des professionnels, pas que les pompiers, hein, bien évidemment, et donc testé, expérimenté dans plusieurs services départementaux et dans, par des associations agréées de sécurité civile pendant plusieurs mois. Et donc on sait que ce retour d'expérience a été utile, on sait que ça fonctionne, on sait comment le déployer. Maintenant voilà, on sait que 2027 sera l'année pour le SDIS 95, ouais. Exactement.
Lieutenant Chamolac, je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause. On écoute Emmanuel Moir et son titre « Beau malheur » et j'aurai d'autres questions à vous poser ensuite.
Avec plaisir, merci. Merci.
Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur, tu me dis que rien n'efface, ni la craie, ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans, qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ceux qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, être rassuré avant d'être consolé, pour ne plus rien cacher bien avant d'être apaisé. Il m'a fallu la peur pour être rassuré, et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, et j'ai connu la rancœur bien avant. Pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur.
IDFM 98 FM.
Merci d'être resté avec nous. Vous êtes bien sur IDFM Radio et c'est notre émission Notre territoire a du talent, en compagnie de Benjamin Alchamolac, lieutenant du SDIS 95, chef de centre de Persan et référent du projet Amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le cadre opérationnel. Et Françoise Doroc, qui a pu être avec nous alors qu'elle est en province, mais nous l'avons eue au téléphone, fondatrice et présidente de l'association APT, créatrice de la méthode Dolce, une approche innovante d'apprentissage et d'accompagnement destinée aux enfants autistes. Lieutenant Alchamolak, vous avez évoqué à deux reprises, et j'ai compris que Françoise Doroc connaissait cette association, l'association John Bost. Donc si vous pouviez nous en dire un peu plus.
Alors la fondation John Bost, notamment avec deux femmes assez incroyables, on a pu connaître cette fondation vraiment implantée à l'échelle nationale, mais également à l'échelle départementale. Donc John Bost est une fondation finalement qui accueille des personnes en situation de handicap, notamment le handicap psychique, les personnes avec les troubles du spectre de l'autisme, des troubles du développement intellectuel, des polyhandicaps, et des personnes âgées, des personnes handicapées vieillissantes. Ça a été pour nous un merveilleux finalement partenariat qui nous a vraiment permis de co-construire un programme entier. Typiquement, vous avez des établissements dans le Val d'Oise, hein, à Vauréal, une IME, des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées, à Jouy-le-Moutier par exemple.
Oui.
Ce qui nous a vraiment permis de construire un programme, on pense, très efficace et pragmatique pour les sapeurs-pompiers.
Ce programme, donc, il est piloté par la DGS-CGC. Vous nous traduisez ?
Alors, c'est la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
D'accord.
Voilà, qui est située à Paris. Si vous voulez, c'est la direction qui gère la sécurité civile en France. Et dans cette direction, elle gère également les services départementaux d'incendie et de secours, mais aussi les associations de sécurité, agréées de sécurité civile, pardon.
Mm-hmm. Très bien, merci. Alors, une autre question. Comment réagissent les familles lorsque vous intervenez justement dans ce domaine pour les personnes en situation de handicap?
Alors, on a pu échanger lors d'une conférence sur la commune de Mériel, qui était sur le thème de l'autisme, où effectivement nous avons pu échanger avec les parents de jeunes autistes, et c'est à la fois un soulagement, un étonnement aussi de notre présence, parce que on s'attend pas à voir des pompiers quand on parle d'autisme.
Oui.
Mais vraiment c'est le soulagement, peut-être. Se dire ah enfin il y a les pompiers s'intéressent
une reconnaissance.
Oui. Ah enfin les pompiers sont là et s'intéressent. Donc c'est des échanges qui sont forts parce que attendus je pense des familles, et vraiment de bon, peut-être comme on a échangé avec la dame tout à l'heure au téléphone, hein, c'est le fait d'accueillir.
Oui.
D'accueillir ces jeunes, ces personnes. Mieux comprendre. Je pense qu'il y a du soulagement, et aussi de la reconnaissance.
Mmh. Oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que pour des enfants, des personnes en situation de handicap, parfois pour les familles, c'est très très lourd parce qu'elles ne peuvent pas partir en vacances. Enfin, il y a énormément de, elles sont sur le pont 24 heures sur 24 et ça peut être lourd moralement, intellectuellement, physiquement.
Alors c'est lourd, effectivement. C'est pour nous sur la situation d'urgence, c'est d'avoir aussi ce regard sur les dents, peut-être. De pas négliger ce qu'on fait pas, mais d'avoir vraiment une attention particulière à l'aidant, d'avoir l'oreille attentive sur peut-être des échanges qui pourraient y avoir au cours d'une intervention, pour ne pas louper un soutien, ne serait-ce que le temps de notre intervention. Mmh. Parce qu'on sait que l'aidant aujourd'hui est mobilisé H24.
C'est ça.
Que ce soit pour le handicap, mais pour aussi l'accompagnement des personnes âgées, des personnes dépendantes. Donc, lors de nos interventions, de vraiment prêter l'oreille et d'avoir ce temps d'échange, si possible, bien entendu, en fonction de l'urgence, mais ce temps d'échange est primordial.
Et donc, le programme que vous développez, donc vous êtes à Persan, vous allez le déployer dans toute la France?
Alors, on le déploie au niveau départemental, avec des actions bien entendu territoriales et locales à travers les actions qui sont menées par les centres de secours. Là, sur les dernières semaines, vous avez eu des actions avec le centre de secours de Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, ce matin, Viarmes. Ça va se développer. Nous, on a la volonté sur Persan d'avoir 4 moments d'échange sur les mois de juillet et août. Mais typiquement, voilà, le programme est vraiment destiné à être développé au niveau départemental. Et puis, au fur et à mesure des échanges qu'on peut avoir, c'est de proposer voilà, des pistes de réflexion à nos collègues pour pouvoir le déployer effectivement ailleurs, je dirais pas national, au niveau national, mais en tout cas, au fur et à mesure, on voit que la volonté peut être nationale, et dans ce cas-là, il faut pas hésiter. Parce que avec finalement, comme le disait encore la dame tout à l'heure, on est beaucoup à faire des choses de manière un peu isolée. Et la communication, comme on fait là aujourd'hui, permet des mises en contact, réunir des talents, des idées pour améliorer, accélérer finalement ce qu'on peut mettre en place, les actions qu'on peut mettre en place. Donc c'est très utile.
Alors, Françoise Doroc disait que il fallait une volonté politique. Ces actions que vous les menez en lien aussi avec les communes, enfin les maires des communes.
Alors vous savez que le service départemental est géré par un conseil d'administration où nous avons des représentants à la fois du département et des communes. Et à ce titre, ils sont informés des travaux que le SDIS mène. Typiquement, là, l'action sur la prise en charge du handicap fait partie d'un plan d'action secours à personne qui a été présenté aux élus. Et donc, il y a aucun problème pour que... Et on sait que nos élus du territoire nous suivent, nous soutiennent et sont vraiment auprès des sapeurs-pompiers pour nous soutenir dans nos actions. Et nos élus locaux sont derrière les sapeurs-pompiers et à nos côtés pour
sont mobilisés
avec nous bien entendu.
Donc, c'est bien. Et nous comme qu'est-ce qu'on peut faire, citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
Simple citoyen, c'est de porter et de relayer les communications que vous pouvez avoir sur les différents réseaux typiquement sur la direction générale, les différents partenaires qu'on peut avoir. On sait que au travers de la communication aujourd'hui, réseaux sociaux, tout va plus vite et on espère que la communication qui va vite va nous aider à déployer tout ça, à en parler autour de vous et potentiellement aux gens qui nous écoutent, de ne pas hésiter à nous solliciter lors des conférences comme on a pu faire sur la commune de Mériel, différents temps d'échange pour pouvoir éventuellement organiser des programmes, co-construire des documents de formation, de sensibilisation, et qu'on puisse vraiment parler librement du handicap.
Ensemble. Ça ne soit plus un sujet tabou.
Exactement.
Parce que c'est souvent le cas. Quand vous faites ces réunions, comme vous avez fait à Viarmes ou à Mériel, le public est invité?
Alors effectivement, aujourd'hui, ce sont plus des rapprochements. Comme à Viarmes ce matin, c'est un établissement John Bost justement qui est à Saint-Martin-du-Tertre, qui a pris contact avec la caserne pour organiser un temps d'échange et une visite tout simplement de la caserne. Après, sur la commune de Mériel, nous avons été invités par les organisateurs, que je remercie encore, et la municipalité, qui nous a accueillis, parce que c'est vraiment a été une des premiers temps d'échange finalement. Par rapport à depuis le début du programme, et donc ça a été très très valorisant de pouvoir être avec eux sur cette soirée, très enrichissant. On va dire que ça peut être une initiative locale, quelque chose qui passe au niveau départemental. Typiquement, il n'y a pas vraiment de schéma particulier, on peut avoir au travers notamment les réseaux sociaux des contacts qui peuvent être pris,
relayés. En tout cas, si vous avez des programmes de visites ou de réunions à qui établis, vous nous les soumettez et puis nous on les relaiera sur le site de la radio et sur nos réseaux sociaux.
Avec
N'hésitez
plaisir.
Pas.
Bon, on a un super service communication que je remercie parce que il nous apporte énormément d'aide également, et donc je sais que ils pourront facilement se mettre en relation avec vous. Mais donc, écoutez,
on les sollicitera en tout cas. Super. Voilà, lieutenant Al-Shamoula, qu'on arrive à la fin de cette émission. Peut-être juste un mot avant de nous quitter, un mot de conclusion, et puis.
Bah, écoutez, tout simplement, merci, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, pour cette invitation, pour la diffusion aussi de nos actions, de la valorisation de ce que peuvent faire les pompiers aujourd'hui. Le pompier n'est pas uniquement dans les camions, mais voilà, on a beaucoup de pompiers qui travaillent sur des thématiques particulières. Et puis. Vraiment, c'est aujourd'hui l'objectif annoncé et voulu. C'est vraiment d'améliorer notre prise en charge. Donc, compter sur les sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Voilà, l'idée générale, encore une fois, c'est mieux comprendre pour mieux intervenir, mieux secourir. Donc, les pompiers du 10-95 seront là.
Voilà. Très bien. Bah, écoutez, le message est entendu et nous allons essayer de le relayer le mieux possible. Merci infiniment, un immense merci. Je vous donne le même merci qu'à Françoise de Roc pour votre témoignage, votre engagement, votre vision. On voit que aujourd'hui l'inclusion, parce que le mot existe quand même, hein, même si Françoise préfère accueil, n'est pas un concept abstrait. C'est un travail quotidien, concret, humain. Et on peut dire que notre territoire a du talent, et ce talent, c'est aussi la capacité de créer des environnements où chaque personne autiste ou en situation de handicap peut être comprise, respectée et accompagnée. Merci Erwan pour la technique. Merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. Retrouvez cette émission sur idfm98.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Notre territoire a du talent. Et en attendant, restez bien sur notre fréquence pour la suite du programme. À bientôt.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous avez des questions d'ordre juridique ? Les avocats du barreau du Val d'Oise y répondent dans l'émission Tous les droits, le premier lundi de chaque mois, de 9h30 à 11h sur IDFM Radio. Envoyez votre question à l'adresse tldidfm@gmail.com et nous y répondrons à l'antenne.
Bonjour ! Retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Depuis 1994, vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenir avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas. Restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music et chaque semaine, vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.
Vous êtes commerçant, artisan ou association et souhaitez diffuser des spots publicitaires sur notre antenne? Contactez-nous au 01 34 12 12 22 ou par mail à contact@idfmradio.fr.